Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 4h30 à Bangui, à Paris, 2h de plus à Nairobi.
Vincent Dublange.
Afrique Matin, on est ensemble, comme tous les matins, une demi-heure largement consacrée à l'actualité africaine. Le journal qui débute et à la une, le président William Ruto annule le contrat liant l'État kényan et la société indienne Adani pour rénover l'aéroport Kenyatta en cause. Les déboires du mania indien devant la justice américaine, mais tout cela dans un contexte où cette extension de l'aéroport faisait polémique depuis des mois au Kenya. Une polémique à Madagascar sur ce projet de taxe sur les transferts d'argent via téléphone portable, le mobile money. On va en parler dans deux minutes. On entendra aussi dans ce journal les élus de l'Est de la République démocratique du Congo qui demandent la levée de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Et l'on continue bien sûr notre plongée dans les méandres de la désinformation russe en Centrafrique. Oui, c'est une affaire qui met aux prises la justice américaine, en l'occurrence un juge de New York, et le deuxième indien le plus riche, fortune estimée à 116 milliards de dollars, Gautam Adani. Il est officiellement inculpé depuis 48 heures aux États-Unis pour des accusations de corruption. Des pots de vin qu'il aurait, avec d'autres responsables de son conglomérat, versé pour obtenir des marchés publics en Inde. On parle de millions de dollars. Et le juge américain estime que des investisseurs américains ont, dans l'affaire, été floués, d'où cette inculpation. Une affaire, en tout cas, je vous le disais en titre, qui a des conséquences en Afrique, notamment au Kenya. L'une des filiales de la holding de Gautam Adani devait moderniser l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. Eh bien, le chef de l'État kényan, William Ruto, a dit stop hier, Claire Fage.
L'annonce du président Ruto au Parlement kényan a suivi de quelques heures l'inculpation pour corruption du mania indien Gautam Adani aux États-Unis.
J'ordonne maintenant que les agences concernées annulent immédiatement la passation de marché en cours pour l'extension de l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi.
L'acclamation des parlementaires kényans est à la hauteur de la controverse sur ce contrat d'$1,850 milliard suspendu depuis un mois pour examen par la Haute Cour. Il attribuait à Adani une concession de 30 ans sur l'aéroport et au-delà la propriété sur 18% de l'infrastructure. Il menaçait aussi, selon les salariés du secteur aérien kényan, l'emploi local. Dans son élan, le président Ruto a également annulé le partenariat public-privé avec le groupe indien pour l'extension du réseau électrique à haute tension kényan, un autre méga-projet de $740 millions.
Un Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. Situation tendue hier soir à Djouba, au Soudan du Sud, violente même, avec ses tirs nourris autour de la résidence de l'ancien patron des renseignements, Akol Kor Kutch, que le président Salva Kiir a limogé début octobre. D'après un message interne de l'ONU à ses employés sur place, il aurait été arrêté. Une source militaire sud-soudanaise parle au journal local Sudan's Post et évoque un malentendu avec la garde prétorienne de l'ancien chef espion. Cette source parle de dizaines de morts et de blessés dans les combats. Les tirs se sont tus vers 20h en temps universel. Il est 3h33 pour l'heure en temps universel, 6h33 à Madagascar, où ce journal se poursuit avec le cri d'alarme des opérateurs de mobile money après la présentation d'un projet de taxe devant l'Assemblée nationale. C'était lundi. L'idée est de prélever dès 2025 0,5% sur tous les transferts mobiles de plus de 150 000 ariars, l'équivalent de 30 euros. Les trois acteurs du marché, Mvoul, Orange Money et Airtel, demandent à l'administration fiscale malgache de reconsidérer cette mesure. Elle est jugée, Pauline Le Troquet, à la fois inefficace pour l'État et dangereuse pour les usagers.
L'annonce a secoué le monde du mobile money à Madagascar, un secteur qui n'avait connu en 10 ans que la prospérité et la croissance de ses abonnés portés à 23 millions en 2024 contre 3 millions en 2014. D'une seule voix, les opérateurs préviennent alors, une telle entrave aux activités de transfert d'argent ne fera que freiner les recettes fiscales que l'État espérait accroître au bénéfice de l'investissement public. Louis Favot, directeur général de Mvoul.
Quand on regarde l'ensemble des pays africains qui se sont lancés dans une telle mesure, juste après l'introduction de cette taxe, il y a une chute brutale de l'activité de mobile money de l'ordre de moins 40 à moins 60%. Elle engendre moins de transactions et donc moins de TVA et moins de revenus fiscaux et de recettes fiscales pour l'État.
En plus de son inefficacité fiscale, les acteurs du secteur anticipent des risques sécuritaires et économiques associés au retour à l'argent liquide, à l'économie informelle et à une perte directe du pouvoir d'achat des ménages, explique encore Louis Favot.
Un transfert de 250 milliards qui correspond au salaire minimum. Aujourd'hui, il coûte 1200 milliards. Demain, il va coûter aux consommateurs 2450, deux fois plus. Donc l'impact de cette taxe, il est mesurable et il est extrêmement lourd pour l'ensemble des consommateurs.
Sollicitée par RFI, la ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Rabarneri-Narson, défend le choix du moindre mal et d'ajouter « nous gagnerions six fois plus en taxant le riz ou les médicaments ». Sur les réseaux sociaux malgaches, les internautes ne cessent pourtant d'exprimer eux aussi leurs inquiétudes. Le mobile money s'est imposé ces dernières années comme un service incontournable dans le pays. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Une vingtaine d'enfants en seraient morts ces dernières semaines. Les intoxications alimentaires dans le viseur des autorités sanitaires sud-africaines, elles classent désormais le phénomène comme catastrophe nationale. Tout est parti des Spaza Shops, ces petits magasins informels de vente de nourriture. Pointée du doigt désormais, la Ligue des femmes de l'ANC fait de la pédagogie en porte-à-porte. Au reportage à Tchouané, tout près de Johannesburg, Valentin Hugues.
La Ligue des femmes de l'ANC se regroupe en chanson. Gilet vert et jaune sur le dos.
On chante pour appeler toutes les femmes à se lever car nos enfants sont tués et intoxiqués.
Depuis les récents cas d'empoisonnement, de nombreuses villes ont interdit la vente ambulante aux abords des écoles. Mérine Guéma, responsable de l'association des vendeurs informels.
Nos vendeuses n'ont plus le droit de travailler devant les écoles, mais c'est la vente illégale qu'il faut combattre, pas nous.
Pour mettre fin à la vente illégale, ces femmes en colère arpentent la ville et interpellent tous les vendeurs de nourriture.
On vérifie les dates de péremption et j'ai l'impression que certains produits n'en ont pas.
Noctula Naba mène cette action coup de poing, c'est la secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'ANC.
On ne peut pas rester silencieux, ce sont nos enfants. On ne veut pas les voir mourir, on se battra jusqu'à la fin. Tu occupes tout le trottoir du coin de la rue, là, illégalement. Pars et dis bien à tes patrons qu'on est venu te voir.
Le groupe qui déambule dans les rues n'hésite pas à encercler les stands et à filmer leurs propriétaires, à qui elle demande une autorisation officielle de vendre. Une action qui choque cette commerçante.
Toutes ces femmes autour de moi, elles n'ont pas à me parler comme ça. Je suis tellement en colère. Je travaille juste pour que ma fille puisse aller à l'école.
Le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation à ce sujet. Il a ordonné à tous ces magasins informels de s'enregistrer officiellement auprès de leur ville d'ici un mois. Valentin Hugues, de retour de Tswané, RFI.
L'enquête se poursuit après le saccage en début de semaine du mausolée de Patrice Lumumba à Kinshasa. 6 personnes ont été arrêtées, 2 sont recherchées. On n'a pas de détails sur leur identité. Il pourrait, selon une source proche du dossier, s'agir de policiers présents sur les lieux au moment des événements. Détenus, ajoute cette source, pour raison d'enquête. La République démocratique du Congo et ses députés qui haussent le ton contre l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. 5 élus de Bunia, de Butembo et des territoires de Lubero et de Massissi ont déposé une proposition de loi portant sur la levée de cette mesure d'exception mise en place il y a 3 ans et demi. Écoutez l'élu de Bunia en Ituri, Gratien Irakan.
Nous voulons justement obtenir un autre résultat, parce qu'avec l'état de siège, on connaît déjà un résultat qui ne satisfait vraiment pas la population congolaise. Et donc, si on réqualifie ou on lève pratiquement l'état de siège, à donner cette chance aux militaires de pouvoir se focaliser, se concentrer sur les opérations militaires ensemble avec les alliés, parce que vous savez qu'il y a des opérations en cours contre les ADF avec l'allié ougandais, le UPDF, il y a d'autres opérations en cours au Nord Kivu. Donc, nous pensons qu'on peut redéfinir autrement les résultats que nous avons eus avec l'état de siège et qu'on puisse réhabiliter les autorités civiles. Et donc, on pense qu'on peut mettre fin à l'état de siège par une loi. C'est ce que nous sommes en train de proposer.
Un propos recueilli par Alexandra Branjon. Radio France Internationale et cette enquête à laquelle notre station participe aux côtés du collectif Forbidden Stories, histoire oubliée qui reprend des investigations empêchées de journalistes partout dans le monde. On vous invite jusqu'à dimanche à plonger dans la machine de désinformation russe en Centrafrique. Une enquête basée sur le récit, les documents fournis par un lanceur d'alerte, Efrem Yalike, qui a travaillé pendant près de 3 ans pour la communication du groupe Wagner à Bangui. François Mazet, ce vendredi, vous mettez en lumière une manœuvre claire de désinformation russe à Boire, dans l'ouest de la République centrafricaine. C'était fin février 2022. Celle-ci aurait pu coûter très cher à Efrem Yalike.
Le 27 février 2022, Ephrem Yaliké s'envole aux aurores pour la ville de Bouar avec son patron, le directeur de la communication des paramilitaires russes, Mikhaïl Prudnikov. Ordre de mission, mettre en avant le sauvetage et la prise en charge de deux éleveurs peuls qui auraient été blessés par des rebelles du groupe 3R. Mais une fois à l'hôpital, Ephrem Yaliké comprend vite que la réalité est bien différente. Les blessés sont réticents à parler, le traducteur biaise leurs propos, leur langage corporel indique le malaise. Ephrem Yaliké prend note, photographie. Son récit diffusé dans plusieurs médias sera conforme aux instructions. Pourtant, dans l'avion du retour, son chef a confessé que ce sont bien les hommes de Wagner qui leur ont tiré dessus. Par erreur, affirme-t-il. Trois semaines plus tard, le journal Les Dernières Nouvelles imprime la vérité. Violence volontaire et vol de bétail. Mikhaïl Prudnikov enrage, accuse Ephrem Yaliké d'avoir trahi. Il débarque chez lui, l'emmène dans une forêt éloignée sur la route de Boily, menace de le laisser pour mort, pistolet sorti s'il ne confesse pas, confisque ses téléphones pour vérifier tous ses contacts. Faute de preuves, Ephrem Yaliké a la vie sauve mais rentre à pied à Bangui. Saisi par la honte et le désarroi, il se met en quête d'une porte de sortie à sa collaboration.
Et tout cela est à lire bien plus en longueur sur notre site RFI.fr, sur notre application pour smartphone RFI et puis aussi une vidéo de François Mazet qui vous explique un peu tout sur Facebook et sur Instagram. Pour la première fois de leur histoire, les Comores vont accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien. Ce sera en 2027 et hier matin, le président Azali a installé le comité d'organisation. Les défis sont nombreux, Abdallah Mzembaba.
L'État doit finaliser une convention avec la Chine pour construire une piscine olympique et un gymnase dont les travaux doivent débuter avant janvier 2025. Une inspection du Conseil international des Jeux est par ailleurs prévue dans les prochains mois. Les infrastructures hôtelières doivent aussi être prêtes pour accueillir 300 participants de 14 disciplines différentes. Pour le président Azali Assoumani, le maître mot, c'est l'unité.
On a besoin d'actes plus que de paroles. On n'a pas droit à l'erreur. Et j'espère qu'on va mettre à côté nos tiraillements, nos contradictions, et s'unir par rapport à cet événement qui va honorer le pays aujourd'hui et demain. Mais maintenant, le devoir, c'est de les accomplir avec réussite et surtout avec fierté.
Le président du comité nouvellement créé, Mohamed Ismaïla, n'a pas manqué de rappeler l'urgence face au temps.
Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est réunir toutes les équipes et fixer les objectifs. Il y a le facteur temps, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi l'organisation sportive elle-même.
Le défi est immense, mais pour les Comores, ces Jeux représentent bien plus qu'un événement sportif, une opportunité unique de briller sur la scène régionale et d'unir toute une nation. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Après l'imbroglio sur le festival Amani qui a finalement eu lieu à Goma en RDC, voici celui autour du festival Jazz à Ouaga, événement phare au Burkina et en Afrique de manière générale. Sa 32e édition est annulée, annonce mercredi soir tard des organisateurs. Absence d'accord du ministère burkinabé de la culture, a-t-on dit. Frédéric Gara a joint le bluesman, vieux Farka Touré, bluesman malien, qui devait participer à Jazz à Ouaga et qui est donc déçu forcément.
Je ne suis pas seulement un peu triste, beaucoup même, c'est même pas à cause de ma participation personnelle, mais c'est à cause aussi du festival, d'où c'est un festival qui est très vieux, qui dépasse les 30 années. C'est un festival qui est très important. Cette année, je me suis dit, OK, je vais tout faire pour que je puisse participer cette année. Et voilà que, à ma grande surprise, préparation, tout est fait, les billets d'avion sont là, les voilà, tout. On m'envoie une lettre pour me dire, bon, malheureusement, ils ont demandé à ce que, voilà, on soit annulé. Pour moi, c'est vraiment triste, c'est vraiment grave que la culture soit au milieu de beaucoup de choses, en fait. C'est Jazz à Ouaga qui m'a fait découvrir le Burkina. En tout cas, si ça se faisait, c'était vraiment un plus. Parce que les gens qui vont là-bas, c'est un plus pour le tourisme. J'ai un plus pour même la découverte de certaines personnes, peut-être que cette année, qui ont voulu découvrir voilà, ce pays. Donc, voir qu'on annule ça, qu'on ne puisse pas aller vraiment, c'est dommage.
Diarabi, vieux Farka Touré, joint par Frédéric Gara. Il est 3h44, tout pile à Ouaga.
Afrique Matin sur RFI.
Et en temps universel, 4h44 à Paris. Mauvaise nouvelle si vous nous écoutez à Mayotte. De grosses coupures d'eau, plus importantes qu'encore qu'à l'accoutumée. Dès lundi, arrêt des robinets dès 10h du matin et non plus à 14h. Les détails dans le journal de nos collègues du réseau de services publics La première dans 10 minutes. Qui habille donc les polices anglaises ou allemandes? La garde nationale espagnole? Des fabricants chinois? Non. Des entreprises tunisiennes? Elles ont travaillé, la qualité, la proximité, elles ont convaincu apparemment. C'est l'Afrique économie du jour dans 5 minutes. On va parler aussi du prix des bananes, objet de négociations tendues en ce moment entre distributeurs européens et exportateurs, notamment sud-américains. Préserver un patrimoine, transmettre aux jeunes générations la culture, mais aussi les savoir-faire qui vont avec. Le grand format de la rédaction Afrique est dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Boisflay, pas très loin de la capitale administrative Yamoussoukro. C'est là où vit la communauté Gouro, une communauté dont la vie est notamment rythmée par des cérémonies. Le Zaouli est l'une d'entre elles, la principale en tout cas. L'UNESCO l'a inscrite en 2017 au patrimoine mondial immatériel de notre humanité commune. Le Zaouli, c'est un hommage aux femmes, à la beauté, qui passe par la musique, la danse, le tissage de costumes et la confection de masques. Des masques qui requièrent un savoir-faire transmis de maître en maître. Le souci, c'est que le dernier grand maître sculpteur, Sabou Bibotti, est mort il y a 3 ans maintenant, et les sculpteurs d'aujourd'hui peinent à transmettre leur art à la prochaine génération. RFI reportage à Boisflay, Benoît Almeras.
Un rythme effréné, une danse saccadée, un masque coloré, c'est la trinité du Zaouli. La cérémonie populaire anime les fêtes Gouro. Sous un soleil de plomb et en costume rouge, le danseur arbore ce jour-là un visage écarlate surmonté de 2 biches, une scène au sens caché. Ces masques décorés, Samuel Irié-Biwablé en sculpte chaque jour dans son atelier. Les pieds dans les copeaux, couteau en main, l'artiste façonne une pièce de bois.
Je suis en train de creuser actuellement l'arrière du masque. Ça, c'est un masque d'âme. Appelé Flali.
Samuel est l'héritier d'une lignée de sculpteurs. Le quinquagénaire exerce depuis plus de 30 ans, mais il n'a pas de successeur faute de moyens.
Compte tenu du fait que nous-mêmes nous sommes livrés à nous-mêmes, si nous avions les moyens d'encadrer nos apprentis, nous allons le faire.
Et si les masques disparaissent, qu'est-ce qui se passe pour la tradition Gouro?
La tradition disparaît. Sans le masque, il n'y a pas de tradition. C'est une chaîne. Il faut entretenir tout ça.
Cette crise des vocations préoccupe le directeur régional de la culture. Lui-même Gouro, Mathias Goré-Biblanc, veut valoriser ce patrimoine.
Quand il n'y a pas de transmission, il y a un frein qui s'installe. Donc ce que nous faisons ici dans la Maraoué, c'est d'essayer d'identifier tous nos praticiens, de les former à la transmission de leur art. Mais la transmission, elle est bien, mais il faut que ceux qui font vraiment cette pratique-là vivent aussi de leur art. Donc c'est de faire la promotion.
La promotion passe entre autres par les associations, parmi elles la Fédération du Zaouli. Gérard Trabitizier, l'un des responsables, a peur de voir sa culture disparaître.
C'est ce que nous ont laissé nos ancêtres. Si nous, à notre tour, on ne perpétue pas, qu'on laisse mourir, ça veut dire que nous n'avons plus de repères. Si les artistes vivent de leur art, ils vont insuffler de nouveaux souffles aux nouveaux pratiquants qui vont s'intéresser plus à la culture.
Et pour attirer la nouvelle génération, l'association compte sur des événements comme le Festival international du Zaouli. La première édition se déroulera du 4 au 8 décembre prochain à Boisflay. Benoît Almeras, Boisflay, RFI.
Un reportage bien sûr à retrouver sur notre appli de podcast RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
Et l'actualité de ce vendredi 22 novembre 2024. C'est l'inculpation par les mandats d'arrêt, en tout cas de la Cour pénale internationale, émis contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, contre son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et contre l'un des responsables du Hamas, Mohamed Deif, tous 3 accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Israël qui poursuit par ailleurs ses raids, notamment au Liban, des frappes sur la vallée de la Beka, fief du Hezbollah dans l'est du pays. 40 morts selon le ministère libanais de la Santé. Vladimir Poutine estime que le conflit en Ukraine a désormais tout d'une guerre mondiale. Il prévient qu'il n'exclut pas de frapper les pays occidentaux. Le président ukrainien estime que le tir d'hier d'un missile balistique de portée intermédiaire qui est conçu pour porter une ogive nucléaire, même si là il n'en portait pas. Il estime que ce tir était l'acte d'un voisin fou, je cite. Coup de tonnerre au Brésil, enfin. La police recommande l'inculpation de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pour un projet présumé de coup d'État visant à empêcher le retour au pouvoir de Lula après le scrutin de 2022. De tout cela, on parle largement dans les prochains journaux, le prochain dans 11 minutes. Allez, dossier Afrique économie du jour. Il met le bleu de travail, vêtement symbole du monde ouvrier. Ces vêtements revêtus uniquement pour travailler, c'est un marché police, pompiers, travaux publics, les champions mondiaux de ce marché des vêtements de travail, ce sont la Chine et le Bangladesh, puisqu'on parle essentiellement de textile. Mais ces dernières années, la Tunisie regagne des parts de marché. Pour vous expliquer pourquoi, et ça peut vous donner des idées si vous êtes dans le secteur, Alexis Bédu s'est rendu à Expo Protection, le salon de la prévention et de la gestion des risques professionnels à Paris.
Ça, c'est pour la police anglaise. Ça, c'est pour la garde nationale espagnole. Nous fournissons aussi la police en Allemagne et j'espère qu'on aura l'occasion d'attaquer un peu le marché français.
Conquérant à Mormlika, il est directeur de 4 usines de production de vêtements de travail et de protection vers Nabeul sur la côte est du pays. La concurrence chinoise, plus compétitive au niveau des prix, a longtemps sapé les exportations tunisiennes, mais la proximité géographique de la Tunisie avec l'Union européenne a permis de renverser la tendance. Les clients veulent désormais un approvisionnement proche et efficace.
Pas mal de fournisseurs asiatiques, principalement pour les tenues de lutte contre le feu, ramènent des matières premières, des tissus européens, font la confection et renvoient. Donc, alors que chez nous, s'il y a moins de stock, moins de pression sur la liquidité, plus de réactivité, proximité même pour l'assistance technique, tout ça, c'est des atouts qu'on a su mettre en valeur et nous adapter au contexte actuel.
Les certifications environnementales sont désormais une condition sine qua non pour exporter en Europe. Les professionnels tunisiens se sont donc mis à niveau, ils sont montés en gamme.
Nous avons aussi cette innovation, ce jean par exemple que vous voyez là, est un jean 100% imprimé. Donc c'est un jean qui consomme 98% moins d'eau qu'un jean classique.
Tarek Benajali est PDG du groupe Workman et vice-président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement.
On a eu la possibilité de conquérir de nouveaux marchés, d'avoir de nouveaux clients et surtout d'aller vers le premium, vers une qualité textile technique. Donc ce n'est plus le basique, le pantalon 4 poches que personne maintenant n'ose porter, sinon les boîtes d'intérim et encore. Donc là, on se rapproche plutôt vers le fashion, tout ce qui est stylé, et ça devient plutôt du prêt-à-porter pour le travail, ce n'est plus du vêtement de travail.
Le prêt-à-porter au travail tunisien qui séduit aussi en Afrique, les contrats affluent, assure Tarek Benajali.
Nous, on vient de signer avec le gouvernement libyen, par exemple, pour habiller les 10 entreprises pétrolières étatiques libyennes, par exemple. On travaille aussi au Cameroun avec les mines de diamants et tout ça, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de confrères qui travaillent et ils viennent même de certifier des combinaisons pour le nucléaire, par exemple.
Un secteur en croissance qui lorgne également vers la Russie, même si la Chine et le Bangladesh restent les premiers fournisseurs de l'Union européenne.
Un reportage d'Alexis Béduche. Tout le monde veut de la banane de qualité, équitable, donc qui paye bien les paysans qui la cultivent, et écologique. Mais qui veut vraiment payer pour tout ça? C'est toute la question au cœur des actuelles négociations commerciales pour fixer les prix de la banane en 2025 dans les supermarchés européens. Marie-Pierre Olfant, les producteurs d'Amérique latine dénoncent le double discours de certains distributeurs.
Dans plusieurs pays européens, c'est aujourd'hui que sont discutés les prix de la banane qui seront en vigueur en 2025 dans les supermarchés. Un bras de fer annuel particulièrement difficile car on parle du fruit qui sert de produit d'appel à la grande distribution, celui qui fait venir les consommateurs. Toucher à son étiquette est donc presque tabou. Mais le problème, c'est qu'en face, on demande toujours plus à la banane pour qu'elle diminue son empreinte carbone et qu'elle utilise moins d'intrants. Les attentes environnementales et sociétales se sont multipliées ces 15 dernières années et sont de moins en moins compatibles avec les prix offerts aux producteurs. C'est précisément ce que dénoncent cette semaine les pays d'Amérique latine qui représentent environ 60% du marché. Dans un texte commun, les producteurs de ce qu'on appelle la banane dollar pointent du doigt les détaillants qui ne veulent pas prendre leur part de responsabilité. Les grands discours sur la durabilité ne sont en fait que des déclarations creuses, écrivent-ils. Dans leur viseur en particulier, le distributeur allemand Edeka qui aurait clairement fait part de son intention de négocier les prix à la baisse. De l'avis des experts, le débat n'est pourtant plus de savoir si l'action doit être collective, ce n'est plus une option, car aux attentes en matière de durabilité s'ajoutent des risques agricoles et logistiques de plus en plus importants et qui entraînent une addition de coûts. À titre d'exemple, la météo affecte la production de bananes en Afrique comme en Amérique latine, mais aussi le niveau d'eau du canal de Panama utilisée pour l'expédition des bananes d'Équateur. Les tensions sur le canal de Suez pèsent, elles, sur la disponibilité mondiale des conteneurs, alors que la guerre en Ukraine a fait grimper le prix des intrants. Des contraintes qui commencent à faire mal à la filière et qui sont de moins en moins supportables pour les producteurs des 20 millions de bananes exportées chaque année dans le monde.
RFI, 6h54 à Mamoudzou, une heure de plus à La Réunion. La colère des taxis réunionnais qui réalisent des transports sanitaires à cause de la tarification imposée par la Sécurité sociale française. Bonjour Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonjour. Les chauffeurs de taxi mobilisés hier sur l'épineux dossier du transport sanitaire. Actuellement, ils sont 500 à réaliser des transports sanitaires sur l'île. Une activité qui fait l'objet d'une convention nationale entre la Sécurité sociale et les représentants des artisans taxis. Elle est signée tous les 5 ans. Mais pour la première fois, il y a des accords, notamment sur la tarification des courses effectuées. Erwan Poney de Réunion la première.
1 million de courses à l'année pour 80 000 patients, c'est ce qui est réalisé par quelques 500 taxis à La Réunion, 500 licences liées à cette convention entre les taxiteurs et la sécurité sociale dans l'organisation du transport sanitaire. Un domaine dans lequel la sécurité sociale veut faire des économies, mais pour Grégory Préport, président de la Fédération des artisans taxis, impossible de faire plus d'efforts sur la tarification.
Jusqu'à présent, la consigne avait été d'accorder à la sécurité sociale une remise de près de 25%. Tout ça dans le but, justement, d'économiser sur ce fameux budget et d'être, nous aussi, en accord avec, je dirais, les directives de la Sécurité sociale nationale. Aujourd'hui, on va nous demander de faire une remise encore plus importante, jusqu'à près de 40%. Aujourd'hui, nous demander de travailler de cette manière-là, c'est absolument pas tolérable.
500 licences, cela représente un millier de chauffeurs dans le département. Pour la Fédération des artisans taxis, les exigences de la Sécurité sociale risquent de déstabiliser tout un secteur d'activité.
Erwan Poney de Réunion la première. Les Mahorais, eux, ne sont pas au bout de leur peine sur le problème de l'eau. La dernière saison des pluies a été satisfaisante, mais lundi prochain, des coupures interviendront dans la matinée pour les trois premiers secteurs. Les explications de Shafika Salimoukou de Mayotte la première.
Tous les villages de Mayotte sont concernés, sauf la zone industrielle de Kaweni, une ZI, qui restera donc aux coupures nocturnes. Les coupures d'eau interviendront à 10h et non plus à 14h. Cela constitue une diminution du temps d'eau auquel les Mahorais s'étaient habitués. Depuis plusieurs semaines, la société mahoraise des eaux peine à respecter ses plannings. Faute de production suffisante, notamment à Mamoudzou, et des interruptions techniques de l'alimentation en eau qui sont devenues quasi journalières. Si la saison des pluies début 2024 a contribué à remplir des réserves taries par plusieurs sécheresses successives et à rassurer quant à la situation hydrique de Mayotte, le contexte de crise traversé par l'île révèle pourtant un état de fait tendu ainsi que de nombreux dysfonctionnements. Se pose plus généralement aussi la question de la gestion de l'eau sur ce petit territoire insulaire à l'heure des changements globaux. François-Xavier Bieuville, le préfet de Mayotte, a été un des premiers à avoir annoncé les changements à venir. Dès 10h, lundi 25 novembre, vos robinets seront donc à sec.
Et on reste à Mayotte avec la préservation des tortues menacées. L'association Langa Nayamba, engagée depuis 26 ans dans leur protection, rencontre un obstacle majeur. Un déficit de 400 000 euros sur un budget total de plus de 2 millions. Et face à cette situation, l'association Langa Nayamba a lancé un appel aux dons pour mobiliser la société civile et les entreprises. Pods François Elie de l'association Langa Nayamba.
C'est un projet qu'on fait finalement pour le territoire, pour Mayotte. Ça va être un lieu d'accueil au public pour découvrir la richesse de notre territoire et des tortues marines un peu à l'image de Kélonia à La Réunion. On aimerait que dans le futur, que les Mahorais soient fiers de dire voilà, on a notre casa Nayamba ici. Vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux les liens vers la plateforme Hello Asso, qui est une plateforme sécurisée pour effectuer les dons vers notre association.
Pods François Elie de l'association Langa Nayamba était au micro de Taslima Abdou Hamza de Mayotte, la première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Bonne journée à vous, Alex Léveillé. C'est la fin de cette première demi-heure africaine sur RFI. Dans une demi-heure, à la une notamment, les suites de notre enquête sur la propagande russe en République centrafricaine. On continue de la décrypter, de vous en raconter les coulisses à partir de documents inédits sur lesquels a travaillé le collectif Forbidden Stories. Je vous conseille notamment la réécoute de l'émission Décryptage d'hier soir. Et pour cela, une seule possibilité, notamment RFI Pure Radio, notre appli de podcast. Dans une minute, Marion Casanov.
Cola, 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 tropical.
Tout à l'heure, sur RFI.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
Et ce sera l'anniversaire de Monique Seca.
Bonjour, retrouvez-moi ce 22 novembre dans Couleur tropicale.
Ce vendredi, émission spéciale dans Couleur tropicale. Nous vous raconterons le parcours de Monique Seca, la reine de l'Afrozouk.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
En saison pluvieuse, les cultures sont naturellement irriguées, mais pendant la sécheresse, les producteurs fournissent beaucoup d'efforts et prennent plus de temps pour arroser manuellement leurs récoltes. D'où la recherche de solutions adaptées, comme le système d'irrigation innovant utilisé au Burkina Faso.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.